Bonjour à tous. Oh, bonjour. Je suis énervé, pardon. Du coup, moi, je vais vous présenter une sorte d'article qui résume un peu ce que la recherche que j'ai menée en master, puis que je continue, enfin la voie que je continue à prendre pendant ma thèse. Je suis en deuxième année de thèse à l'EHESS, donc l'école des hautes études en sciences sociales, qui est basée sur Paris, mais qui a une antenne à Marseille. Donc moi, je suis à Marseille. Et du coup, je viens me présenter voilà, ce qui a été la voie que j'ai ouverte en master et que je continue en thèse. Donc, j'ai pas de PowerPoint. Donc, j'espère que je vais capter quand même votre attention. Du coup, depuis près de 10 ans, les écoles marseillaises sont régulièrement sous le feu des projecteurs. De nombreux articles. Ah oui, au fait, je ne suis pas géographe, je suis en sociologie. Donc, mais qui prend en compte des questions de territoire, des questions d'inégalité entre territoires, et avec une méthodologie qui se rapproche de ce qu'on voit en anthropologie, donc très ethnographique, très qualitatif. Donc, de nombreux articles, de nombreuses voix mettent en avant les états dégradés des écoles dans les territoires au nord de la Canebière. Donc c'est l'artère principale du centre-ville et c'est une frontière géographique entre deux univers sociaux, d'un côté quartier nord et centre-ville, représentant des taux de pauvreté, de non-diplômés, de chômage bien supérieurs au reste de la ville, et dans le sud, plutôt un espace plus aisé, même s'il y a encore certaines cités qui y sont. Et donc dans ces écoles à Marseille, qui font souvent la une, il y a eu de nombreux collectifs qui se sont créés et qui sont emparés des questions d'insalubrité, du manque d'enseignants ou du manque d'ATSM, c'est le personnel municipal, des grèves dans les cantines, de la puissance d'enseignement privé, du manque d'investissement, de l'environnement violent. Donc il y a une multitude de raisons et de s'organiser. Et en fait, c'est une des conditions à la création de ces collectifs, donc, en fait, à mon sens, réside un peu dans le contexte historique de cette zone, de ces territoires au nord de la ville. C'est des territoires qui ont connu une désindustrialisation massive depuis les années 70 et une hausse du chômage. Et là, je reprends une théorie de Robert Castel, qui est la désaffiliation, qui signifie en fait un processus de rupture avec une société salariale, conséquence des transformations économiques en place depuis les années 70, en gros depuis l'avènement du néolibéralisme. Pour venir sur un terrain géographique, par exemple, il y a des auteurs comme Virginie Babie-Collin ou Gwenaëlle Audrin qui ont montré comment cette désaffiliation intègre une ségrégation en fait, sociale et territoriale au niveau de Marseille. Et donc, moi, j'allie donc cette analyse de la désaffiliation de ces territoires aux travaux d'Alain Touraine qui ont montré la nécessité de penser les actions collectives sur leur relation à des finalités, des conflits, des adversaires, qui ne se configure qu'à travers un travail de représentation qui agit dans et sur une arène publique. En fait, l'ensemble des discours et des pratiques de ces collectifs doivent être contextualisés dans la configuration socio-territoriale de la ville et doivent être pensés dans leur démarche constante de penser certains territoires comme défavorisés par rapport aux autres, les services publics comme dégradés, les populations comme abandonnées ou méprisées. Ces trois thèmes reviennent constamment dans ces collectifs. Depuis l'école, ils s'emparent de ces thèmes-là. Je vais vous montrer comment. Il émerge dans ces luttes une volonté d'agir de la part de populations touchées par des formes plus ou moins avancées de vulnérabilité sur leurs propres conditions d'existence ou sur celles qu'elles fréquentent quotidiennement. Les quotidiens conflits autour des écoles deviennent alors des moments de dénonciation des inégalités sociales et de lutte pour une plus grande égalité territoriale. Donc, il y a trois questions assez larges. C'est penser comment l'action de ces collectifs, relayée par de nombreux médias, a fait émerger l'école comme une arène conflictuelle locale. Arène, je prends le terme d'arène de toute une tradition qui vient de l'école de Chicago en sociologie et qui pense ce thème d'arène comme un espace où peut se jouer des négociations, des conflits entre une multitude d'acteurs. Je vais penser comment la notion de populaire, donc je reviens sur la discussion de ce matin, est redéfinie et mobilisée au travers de ces collectifs et en quoi ces différents éléments participent à la reconfiguration des dynamiques politiques locales. Du coup, d'abord, Pour faire un petit point sur les collectifs qui se sont montés, en gros, depuis 2013, il y a eu un collectif qui s'est appelé DESAD, qui s'est créé entre des écoles au nord de la ville, et qui avait déjà tiré des conclusions de l'état dégradé de l'enseignement public à Marseille, et qui avait déjà visé en fait un adversaire commun qui était la mairie, et qui voulait unir tous les corps et tous les groupes sociaux qu'on trouve dans les écoles. Les écoles, c'est un endroit quand même où on retrouve le corps enseignant qui est géré par le ministère de l'Éducation nationale, les ATSEM qui sont gérés par les mairies, et les parents d'élèves. Donc, trois groupes sociaux avec trois hiérarchies différentes, avec possiblement trois intérêts différents, donc possiblement des conflits, possiblement des alliances. Excusez-moi. Et donc des aides est un premier collectif qui veut les unir et passer au-dessus en fait des syndicats existants ou des associations corporatistes et dire en fait on va s'unir pour défendre notre position et défendre l'égalité entre écoles et défendre l'enseignement public dans les quartiers nord. Et en fait cette forme de rassemblement s'est multipliée à différentes échelles. On peut avoir au niveau des écoles, donc il y a des associations d'élèves qui se sont de parents d'élèves. Pas encore, ils sont un peu trop jeunes, mais qui se sont créés et qui montrent régulièrement en fait, des problématiques locales en généralité. Et du coup, une école qui s'appelle l'école Ruffy, qui est au nord de la ville, dans l'arrondissement le plus pauvre de France et qui serait un des quartiers les plus pauvres d'Europe, en fait, c'est une école qui, pendant 10 ans, est restée en préfabriqué et les promesses de les faire passer en bâtiment en dur n'ont pas été tenues par la mairie. Et du coup, le collectif des parents d'élèves a pris ce conflit-là qui était local sur une école pour dénoncer tout le processus de gentrification en place à Marseille et tout le processus d'expulsion des classes les plus désaffiliées du centre-ville vers des quartiers encore plus dégradés. Au niveau supérieur, on trouve des collectifs de quartiers. Donc, par exemple, un collectif de Castellane, c'est une cité au nord de Marseille, qui s'est monté suite à un règlement de compte à la Kalachnikov qui s'est passé à côté de l'école. Et du coup, à partir de ce problème-là, ils se sont montés et ont proposé, depuis le problème de leur école qui était dans un environnement violent, une dénonciation de... C'est très gentil. Une dénonciation de tout le climat de violence qui existe dans le Nord et qui tue régulièrement des grands frères d'élèves, par exemple. Et au niveau de la ville, on a vu se monter des collectifs... au niveau de la ville, qui se spécialise soit sur une question précise, comme un collectif qui s'est monté contre une rénovation privée des écoles publiques de Marseille. Et en fait, ils sont arrivés à retoquer ce projet-là au tribunal. Donc, ils sont arrivés à s'opposer à la mairie et à gagner face à la mairie des parents d'élèves, des maçons, des architectes, des enseignants se sont réunis, sont devenus des experts sur leur sujet et sont arrivés à démonter la mairie. Soit un collectif qui s'est monté à côté et qui, eux, ont recensé les problèmes existants sur toutes les écoles de Marseille, particulièrement dans le Nord. Et leur recensement a été récupéré par les listes de gauche et écologiques et écologistes aux élections municipales de 2020. Donc, en fait, c'est devenu un think tank pour la gauche marseillaise. Et aujourd'hui, il est en phase de pouvoir mettre la pression sur la nouvelle majorité municipale pour leur dire on connaît votre programme, c'est nous qui l'avons fait, nous voulons des résultats rapidement. Donc je suis perdu. Oui, pour arriver à donc ça c'était la première partie sur ces différents collectifs, vous donner un peu une idée de ce qui se passe. Ces collectifs dans le Nord, pour arriver à être efficace, il faut qu'il passe par un travail d'identification. Et c'est là où la notion de populaire est intéressante. Si les quartiers désaffiliés de la ville sont malheureusement connus pour leurs conditions de précarité parfois extrêmes, en fait, on retrouve dans tous les collectifs, dans énormément de syndicats, dans énormément d'actions, le terme populaire qui revient tout le temps. Et j'ai l'impression, en tout cas je vais dans une voie qui a déjà été beaucoup travaillée depuis Marx, en passant par Thompson, par Béraud, par Merkelin, toute une tradition sociologique qui pense la construction du terme de populaire, non pas sur des caractéristiques objectives, mais au travers des actions, pas que, surtout au travers des actions, des discours, des conflits d'un groupe social par rapport à un autre. Et donc, en fait, ma réflexion, c'est de se dire, si à l'époque, les quartiers nord étaient des quartiers ouvriers, et l'espace de lutte était le lieu du travail. C'était l'usine, c'était les docks, c'était les entrepôts. Avec la désindustrialisation, tous ces espaces sont fermés. Et du coup, il y a de nouvelles formes de production de classe. D'ailleurs, on ne parle quasiment plus de classe ouvrière, on ne parle plus que de classe populaire. Donc, il y a une nouvelle, un nouveau travail de production. Et du coup, là, je me base sur les travaux de Denis Merklin, qui parle de politicité. Et en gros, il estime qu'il en fait, la politicité définit des actions, des discours qui visent la survie et la représentation des groupes sociaux dominés. Et du coup, c'est là où on voit l'exemple que j'ai sorti tout à l'heure, sur l'école Ruffy, donc cette école en préfabriqué dans le Nord qui est arrivée à se mobiliser. Dans toutes leurs actions, ils rappelaient qu'ils venaient des quartiers populaires, que c'était des classes populaires, que c'était des pauvres. Et ils s'opposaient aux nouveaux habitants qui arrivaient dans le projet de réaménagement pour dire, eux, c'est des nouveaux habitants. Sans se soucier à aucun moment de savoir s'ils gagnaient plus ou pas, le rapport au quartier, la place dans le quartier, est-ce que tu es ancien habitant ou nouveau habitant? Même plus que ça, est-ce que tu habites des anciens bâtiments ou est-ce que tu habites des nouveaux bâtiments, définissaient une séparation de classe dans leurs pratiques, dans leurs actions, et c'est devenu, et ils sont arrivés à infuser tout le discours politique et social de la ville, puisqu'à partir d'un moment donné, tous les médias et même les élus parler de cette lutte des quartiers populaires, cette lutte des classes populaires contre la gentrification. Donc, en fait, dans leurs actions et dans leur rassemblement et dans la création de discours politiques sur une question de division d'un territoire, sur la question de l'appropriation d'un territoire, ils ont formulé une séparation et une lutte des classes sur un endroit précis. C'est pour ça que je dis que je récupère d'une méthodologie qu'on voit beaucoup en anthropologie, en ethnographie, c'est essayer de penser... Prendre au sérieux ce que disent les acteurs sur le terrain. Si eux s'appellent les classes populaires, si eux se revendiquent des quartiers populaires, ça veut dire que c'est ce terme de populaire, ils le ressentent. Mais pourquoi? Et il semblerait que ça permet de faire la division et d'être en opposition et d'armer leur conflit. Et enfin, le dernier point, donc ma troisième partie, c'est sur l'influence de ces luttes dans l'émergence de nouvelles figures dans le paysage politique. Là aussi, encore une fois, en rappelant que ces gens-là, ces nouvelles figures, se présentent ou on les présente quasiment tout le temps comme des membres des quartiers populaires. Surtout quand on a un parti de gauche comme le Parti Socialiste qui n'arrive plus du tout à recruter dans les quartiers populaires, c'est toujours intéressant d'avoir une personne où on peut dire, lui, il est un peu populaire. Ou ses grands-parents, vous savez. Bref. Voilà. Donc, des parents d'élèves, surtout des maires, au travers de leur action dans les collectifs, sont devenus en fait des interlocuteurs réguliers avec des acteurs politiques, avec des journalistes, avec des acteurs économiques. Et ils ont commencé à maîtriser les enjeux de l'école, de la scolarité. Ils se sont formés à l'action militante, énormément de mamans, c'est surtout des mères d'élèves, c'est quasiment que des mamans. En fait, se sont formés sur le terrain en faisant des actions, en faisant des... En se mettant en avant, en luttant, et en fait, ils sont partis rencontrer le recteur, la ministre de l'Éducation nationale, le maire, les adjoints maires. Et en fait, c'est à travers leur action qu'ils sont devenus voilà, des acteurs centraux. Et cet élément-là, on peut le voir sur des conflits comme l'école Ruffy, encore une fois, ou comme le collectif qui s'est monté contre la rénovation des écoles. On peut le voir aussi pendant le confinement où il y a énormément de collectifs d'entraide, de distribution de nourriture qui se sont montés, et les acteurs de ces collectifs d'entraide sont devenus des figures de l'arène publique marseillaise, et sont même devenus des potentiels producteurs de politiques publiques, puisqu'ils ont énoncé à la mairie comment il fallait faire pour nourrir la population marseillaise du Nord, pour assurer le ravitaillement des quartiers les plus sensibles, et pour arriver à créer de l'emploi dans ces quartiers-là. Donc, ils étaient très contents, la mairie, qu'on leur appelle la personne. Ils étaient ravis. Voilà, il me reste 20 secondes, du coup, j'arrive sur ma conclusion, à quelques phrases près. Et là, on voit ce que beaucoup d'anthropologues ont noté aussi sur cet aspect. Je peux prendre 30 secondes de plus. On noté sur cette formation et sur comment il y a une émergence de figures, c'est qu'en fait, au moment d'une crise, au moment d'un conflit, le collectif agit sur les individus autant que les individus agissent sur le collectif. C'est ce qu'on voit là. Du coup, la conclusion, il émerge donc de nouvelles arènes conflictuelles au sein desquelles les groupes sociaux vivant ou travaillant dans des quartiers désaffiliés agissent pour l'amélioration de leurs conditions d'existence malgré leur vulnérabilité. Parce que souvent, on les présente comme des acteurs passifs de leur domination. Et là, on voit qu'ils sont vraiment ils sont actifs, quoi. Ils luttent contre et ils trouvent les solutions pour la contrer. Le quartier dans lequel ils habitent devient alors le lieu d'identification d'une identité commune. Certaines écoles sont ainsi devenues les catalyseurs de conflits et de négociations autour des conditions de vie et du droit à la vie de leurs habitants. Les problématiques du quotidien s'articulent avec des interactions conflictuelles entre classes sociales différentes et font émerger ainsi une politicité populaire. Une nouvelle génération de militants et de militantes a émergé dans l'arène pour porter ces revendications qui sont devenues centrales, comme nous le prouve la victoire du printemps marseillais, coalition de gauche, aux élections municipales de 2020. Et les multiples références d'Emmanuel Macron aux écoles lorsqu'il est venu à Marseille. Merci beaucoup.